Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poirette.
Qui sont les polémistes pour refaire le monde ce soir autour des micros de RTL? Il y a l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Et le politologue et directeur du Centre d'études et d'analyse, Roland Cayrol. Roland, bonsoir. Bernard. Plus Romain Reiner, bonsoir.
Bonsoir.
De RTL.fr pour savoir ce que les auditeurs pensent de l'actualité. Alors, on va faire deux thèmes de projection un petit peu, puisque c'est ce week-end que ça va se passer. Le premier, c'est le second tour électoral en Corse dimanche. Au premier tour, dimanche dernier, donc 46% pour la liste unie des nationalistes et des indépendantistes. Donc, selon toute probabilité, sauf si massivement les indépendantistes de dimanche dernier vont dans la rue pour voter contre eux, normalement, lundi, eh bien, la Corse sera dotée d'une assemblée unique qui prendra ses fonctions le 1er janvier, donc qui réunit l'actuel territoire, communauté de Corse, plus les deux départements, et qui sera dirigée par des nationalistes. Donc, la question que je posais, est-ce que c'est le début de l'enclenchement d'un processus à la catalane? Qu'en pensent les internautes?
Eh bien, peu d'internautes croient en un scénario à la catalane. Laurent pense que la Corse s'arrêtera avant, de peur des conséquences. Plus de subventions, d'assistanat, le continent qui coupe les arrivées de gaz, d'électricité, les communications. Et bien sûr, plus aucune importation sur l'île à tarif préférentiel. Pour Jean-Paul, les nationalistes ne sont pas majoritaires en réalité. Les votants, dit-il, ne représentent que 25% du corps électoral global. C'est insuffisant pour parler de raz-de-marée, donc insuffisant pour un référendum sur l'avenir de la Corse. À l'inverse, ceux qui imaginent la Corse indépendante laissent entendre qu'ils seraient heureux de s'en débarrasser. C'est le cas d'Éric et Cécile, qui disent « S'ils veulent devenir un pays, donnons-leur l'indépendance, mais sans argent de la France. » Pour François, on pourrait continuer à baisser les impôts sur le continent si la Corse était autonome fiscalement.
Bon, c'est un vrai débat, hein, cette histoire de Corse, parce que quand même, l'indépendantiste Talamoni a déclaré dimanche soir dernier que si dans 10 ou 15 ans se reposait la question de l'indépendance de la Corse, eh ben, faudrait y regarder quand même de plus près. Donc dans son esprit, à lui, il y a peut-être un début de catalanisation, je ne sais pas moi. Qu'en pensez-vous, Roland Cayrol, de
cette affaire ? Non, je pense le contraire, c'est-à-dire que quand Talamoni dit ça, ça veut dire c'est pour rassurer les gens comme vous qui ont peur d'un processus comme ça, en leur disant de toute façon, dans les 10 ans qui viennent, il n'est pas question de faire quoi que ce soit.
Mais 10 ans, c'est demain.
Mais il ne se passera rien dans 10 ans. Ce qui s'est passé en Corse, c'est deux choses importantes. C'est que d'abord, les armes se sont tues.
C'est vrai.
Il n'y a plus d'attentats.
De cagoulés.
Donc il n'y a plus ce lien trouble non plus entre les voyous du banditisme qui continuent à s'entretuer entre eux comme à l'aéroport l'autre jour. Et les indépendantistes. Et de l'autre côté, les Corses en ont marre du clanisme. Et ils en ont marre du clanisme, et du coup, le dégagisme qu'on a connu en France, on l'a connu là-bas. C'est-à-dire que les grands partis classiques ont été pratiquement rayés de la carte, alors que quand même, la droite corse et les radicaux de gauche, on l'entend dominer la vie de l'île. Ils ont été pratiquement rayés. D'ailleurs, En Marche ne fait pas beaucoup plus que... Donc, il n'y a vraiment plus qu'une force centrale qui est ce mélange de nationalistes et d'autonomistes dont aucun n'est vraiment indépendantiste aujourd'hui.
Il n'y a pas vrai pur et dur indépendantiste
mais
en Corse.
Mais il y a Talamoni, bien sûr.
Talamoni, oui.
Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà eux qui gouvernent la Corse. Ils étaient déjà à la tête du Conseil régional. Vous avez le premier jour, Talamoni a fait son discours en Corse. Ce qui est moyennement constitutionnel, parce que la Constitution nous dit que la langue française est la langue de la République. Bon, et puis après, ils se sont calmés. Et en vérité, grâce à tous ces modérés, à ce Simeone, qui le premier a signé la victoire, puisque c'est lui qui a gagné la mairie de Bastia en 2014, ben, je crois que là, il représente bien cette espèce de renouveau démocratique que veulent les Corses aujourd'hui. Ils sont très majoritaires et je crois qu'ils sont majoritaires parce qu'ils ont eux-mêmes changé. Ils sont plus des fiers à bras. L'idée d'indépendance, elle est renvoyée aux calendes corses. Parce qu'on pourrait en reparler dans 10-15 ans, mais je vous fiche mon billet qu'on en parlera plus dans 10-15 ans qu'aujourd'hui. Ils ont trouvé une voie pacifique. À mon avis, le problème maintenant, ça dépend du pouvoir. Il avait dit, Macron, dans sa campagne présidentielle, il avait eu un mot très fort. Il avait dit qu'il s'agirait de signer avec les Corses un pacte girondin. Ce qui veut dire, s'il est toujours sur cette ligne, qu'il faudra évidemment accepter, comme la plupart des îles méditerranéennes l'ont, un statut plus autonome de la Corse. Dans la République, dans la nation, mais avec une autonomie qui reconnaisse l'insularité de ce peuple corse. Et si Macron va dans ce sens, je suis persuadé que on va se réembrasser en Corse.
Ah, quelle belle démonstration politique, signé Roland Quayrol. Qu'est-ce qu'ils ont à en dire, les deux autres, Yvan Rioufol et Philippe Besson? On le saura dans un instant, juste après la pause, 19h25 sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir,
Bernard Poiret.
Il est 19h29, il y a autour des micros Roland Quayrol, Philippe Besson et Yvan Rioufol, à qui je passe le micro. Yvan, alors, on va vers la Catalogne, là, en Corse, avec cette histoire-là ou pas, selon vous?
Il y a une dynamique, quoi qu'il en soit, il y a une dynamique sur un retour à la terre, un retour aux identités, un retour aux racines, un retour au peuple, etc., aux frontières. Et donc, ce qui se passe en Corse se passe en Catalogne, se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit, se passe un peu partout en Europe, se passe aux États-Unis. Donc, il y a quand même ce mouvement d'histoire qui fait que, face à la mondialisation, les gens ont envie, et c'est tout à fait normal, de se replier sur ce qu'ils ont de plus proche, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire leur propre identité. Et donc, ce mouvement corse s'inscrit naturellement dans ce mouvement plus général, avec en effet cette particularité que les Corses ont enfin eu cette intelligence de faire cesser les armes et donc de se faire entendre davantage. Donc ils ont un message qui passe auprès de la métropole, enfin auprès des Français davantage, et donc ils sont aujourd'hui pris au sérieux alors qu'ils n'étaient pas auparavant. Maintenant, avec la Catalogne, c'est quand même un pays, une région qui est particulièrement riche et qui pourrait parfaitement être autonome.
Oui.
Je mets de côté les pieds nickelés qui ont représenté l'indépendance de la Catalogne, qui est en plus était instrumentalisée par une extrême gauche un peu douteuse, etc. Donc il y avait une petite soupe là-bas.
Ceci étant, on verra le résultat du 20 décembre.
On verra bien, mais enfin, a priori, ils se sont tellement débrouillés comme des manches.
Les sondages, pour l'instant, ne leur sont pas défavorables.
C'est vrai,
44% les autres.
On verra bien, Moi, a priori, je ne pense pas, mais ils ont été tellement maladroits, mais enfin, peut-être.
C'est dans 15 jours.
Mais simplement, concernant la Corse, il faut simplement qu'avoir les moyens de ses ambitions. Et je n'imagine pas que les Corses puissent envisager de se passer de la France à échéance de 10 ans, 15 ans, sachant à quel point il y a une dépendance financière, une dépendance de subventions, une dépendance dans la fonction publique qui me paraît ne pas permettre, envisager en effet aux Corses autre chose qu'une autonomie. Mais une autonomie, il va falloir aussi pouvoir la négocier, parce que c'est très bien de vouloir un girondisme. Moi, j'applaudis sur le girondisme, j'en ai un peu marre du jacobinisme, mais le girondisme, il va jusqu'où? Quelle autonomie?
Il est où le curseur?
C'est quoi le curseur? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut vraiment faire rapatrier tous les prisonniers qui disent politique pour les ramener ici? Est-ce qu'il faut vraiment exiger que ceux qui veulent acheter une maison en Corse puissent auparavant avoir justifié d'y avoir habité pendant 5 ans, etc. Est-ce que tout ça, c'est bien valable? Je n'en sais rien. Donc moi, si vous voulez, j'approuve ce mouvement-là, je le comprends très bien, je trouve qu'il est très intéressant. Mais en même temps, il a vite ses limites, et donc, quitte à prendre en effet son indépendance, mais si, dans ce cas-là, ce seront les Corses qui le décideront, mais je ne les vois pas se jeter dans l'inconnu, sachant à quel point il y a un lien vital qui les lie à la métropole, au continent. Oui.
Philippe Besson, comment
vous-vous? Oui, moi, je partage un peu les points de vue qui viennent d'être exprimés. Je vais citer une phrase qui est la suivante. « J'ai beaucoup de sympathie pour le peuple catalan, mais le modèle catalan n'est pas applicable. » Cette phrase, elle est de Gilles Simeoni la semaine dernière. Donc, la Corse, c'est pas la Catalogne. Ça ne l'est ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Alors, sur le plan économique, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir en tête que la Catalogne, ça représente 20% du PIB de l'Espagne.
Oui.
La Corse 0,4. Oui. Donc, vous voyez la différence. Oui. Même chose en population. La Catalogne, c'est 7,5 millions d'habitants et grosso modo aussi 20% de la population.
240 000.
Il y a 320 000 Corses. Oui. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Donc, ça ne pèse pas du tout la même chose. Ça veut dire que la Corse ne peut pas faire valoir son indépendance parce qu'elle est trop petite pour l'assumer véritablement. Et surtout, le développement économique de l'île, ça repose que sur des secteurs comme la construction ou la grande distribution. Et la Corse, Yvan le disait très bien, dépend encore beaucoup des subventions de l'État. Donc tant qu'ils n'arriveront pas à assurer leur nourriture, leur défense, etc., je ne vois pas comment l'indépendance pourrait être à l'ordre du jour. Sur le plan politique, c'est pareil. La Corse, elle n'a pas la culture étatique de la Catalogne. Elle n'est pas non plus dans la même situation institutionnelle. La Catalogne est beaucoup plus autonome aujourd'hui. Et si on voulait élargir les pouvoirs normatifs de la Corse, ça voudrait dire qu'il faut en passer par une révision constitutionnelle. Autant dire qu'il y a un petit peu de route avant qu'on y arrive. Et puis, un un des internautes le disait très bien, la population corse aujourd'hui, elle ne réclame pas l'indépendance. Et là aussi, Talamoni d'ailleurs lui-même le dit, l'idée indépendantiste est minoritaire. Si on votait dimanche prochain, il n'y aurait pas un vote majoritaire en faveur de l'indépendance. Donc quand vous n'avez pas les moyens économiques, pas la structure politique et pas le soutien du peuple pour l'indépendance, on ne voit pas très bien pourquoi on irait. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. En revanche, qu'effectivement, la Corse gagne de l'autonomie ici ou là, et surtout qu'elle gagne un statut particulier du fait justement d'un positionnement, et Roland l'a très bien dit, d'un positionnement différent de ses dirigeants. C'est-à-dire que ses dirigeants sont plus associés à la mafia, ses dirigeants sont plus des provocateurs qui utilisent un vocabulaire qui était transgressif et qui choquait la République.
Oui,
d'accord,
oui,
si effectivement il n'y a plus ça, alors ils auront des choses. D'ailleurs, j'avais un conseil à donner. Je sais qu'il voudrait, ce qui est sur le plan intellectuel assez logique, il voudrait le rapatriement de certains des prisonniers sur l'île de Beauté. Ce qui peut paraître logique, on le fait ailleurs, hein, les gens qui sont en prison sont auprès de leur famille, etc. Donc il n'y a pas de raison. Mais il faudrait que, par exemple, M. Talamoni commence par ne pas les appeler des prisonniers politiques. Parce qu'en France, il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc, Talamoni, il a tort sur ce genre de choses-là, parce que tant qu'il dira ça, la France ne le fera pas. C'est-à-dire le meilleur moyen pour que ça n'arrive pas, c'est de dire ça. Donc je pense qu'effectivement, Simeoni...
Il n'ira pas à la cérémonie d'hommage à Erignac en février,
voilà.
Alors que l'autre...
Donc Simeoni, lui, effectivement, par son positionnement, je pense, obtiendra sans doute davantage que Talamoni par ses provocations. Mais, et cet attelage, d'ailleurs, tiendra-t-il longtemps ?
Parce que
oui, alors j'imagine qu'il y a un bad cop et un good cop, mais fondamentalement, ils iront, de toute façon, je pense que c'est le sens de l'histoire, ils vont avoir raison, vers plus d'autonomie, mais je pense que l'indépendance est une illusion et qu'eux-mêmes n'en veulent pas.
19h35 sur RTL. Dites donc, vous êtes super calé sur la classe. Hein, sans bavure. Hein. La suite de On refait le monde dans un instant. Bon, encore un peu de prospective finalement, puisque les Républicains, les militants des Républicains vont voter pour élire leur président à partir de demain, me semble-t-il, hein, si je ne m'abuse. Et donc Laurent Wauquiez est plus que probable futur président. Est-ce que le Front National a du souci à se faire, tellement on dit que Laurent Wauquiez est à droite? Donc je me dis, peut-être qu'il va mordre sur les troupes du Front National. A tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Bernard Poirette.
Yvan Rioufol, Philippe Besson, Roland Quayrol et Romain Reiner pour refaire le monde ce soir. Donc Laurent Wauquiez, est-ce que ce futur très probable dirigeant des Républicains, qu'on dit très très à droite, pourrait mordre sur les terres du Front National? Le premier tour, c'est dimanche, bien sûr, et le deuxième tour, ce sera le 17 décembre. Qu'en pensez-vous, messieurs? Écoutez, je vous en prie, allez-y, Roland.
Écoutez, oui, je crois que c'est en tout cas sa stratégie. Sa stratégie, c'est de...
Ah pardon, excusez-moi, il faut d'abord donner la parole.
Mais peut-être que Roland pouvait terminer, ça me gênait.
Non, mais je vous en prie. Romain, que disent d'abord les internautes sur cette question?
Eh bien, Laurent Wauquiez a réussi un exploit, celui de faire en sorte que tout le monde ait un avis sur lui. Pour Daniel, ce n'est pas le FN qui doit se faire du souci, mais les Républicains. Il veut que Laurent Wauquiez sorte tout de suite de sa stratégie droitisante. À l'inverse, Yael rejette toute idée d'un Wauquiez trop à droite. Est-il proche du FN? Je ne le crois en rien, dit-il. Pour Wang, les critiques contre Laurent Wauquiez ne sont que le fait des jaloux. Et Herman se réjouit avec lui, plus jamais d'alliance avec les mous de l'UDI. Laura espérait voir Laurent Wauquiez dépouiller le FN comme il en a l'intention. Selon elle, il est le seul espoir de la droite écarté du pouvoir depuis des lustres à cause des Juppé et des autres mollassons du centre-gauche. Mais Alceste craint le pire. Ce serait un drame s'il était élu, dit-il. Les prochaines échéances électorales le confirmeraient très vite.
Et à propos de l'UDI, d'ailleurs, Jean-Christophe Lagarde a dit, si Wauquiez est élu, terminer l'alliance avec les Républicains. Je vous en prie, reprenez.
Écoutez, ce pauvre Laurent Wauquiez, il a une caractéristique comme chef de parti, c'est que personne dans son parti ne l'aime. C'est extraordinaire. Vous pouvez chercher partout un ami de Laurent Wauquiez. Personne n'a d'estime même pour lui. On n'aime pas.
Il sera quand même président.
On n'aime pas Laurent Wauquiez. Il va être président, et en plus il va être président, je le crois, sur la seule ligne politique possible pour les Républicains.
Il n'y a pas d'autre option.
Le macronisme a absolument liquéfié l'ensemble du système politique. Il restera un jour un peu de place, un jour qui va venir, un an, deux ans, trois ans, pour une gauche qui trouve une manière de se renouveler tout en restant fidèle à une vraie gauche, et une droite qui trouvera une manière de se renouveler, mais qui restera fidèle à une vraie droite. Et c'est le seul espace politique que peut occuper Laurent Wauquiez. Essayer de refaire le coup de Sarkozy en 2007, essayer de mordre sur l'électorat identitaire du Front National, oui, de lui plaire sur le plan de l'identité, mais aussi de la répression, de la lutte contre le terrorisme, de la délinquance. Et s'il le faut un jour, parce qu'on ira ensuite vers les présidentielles, se calmer un peu et devenir un peu plus modéré. Ce qu'il pourra faire sans problème, ah, puisqu'il a déjà été, il a déjà été centriste, il a déjà été au sein de l'UMP à la tête d'une formation, d'un courant qui s'appelait la droite sociale. Il est maintenant à la tête de cette droite plus droite que la droite. Il aura donc la capacité intellectuelle d'adaptation qu'on lui connaît. Mais entre-temps, je crois qu'il est en effet sur la seule ligne que peuvent occuper aujourd'hui les Républicains, cette tête droite pour le coup décomplexée, et qui essaye d'aller à la conquête d'électeurs éventuellement déçus par Marine Le Pen et la direction du Front National.
Yvan Rioufol, vous pensez qu'il peut lui faire du mal à Marine Le Pen, Monsieur Wauquiez, en allant lui piquer du monde ?
Il peut aussi faire du mal à Macron, il ne faut peut-être pas oublier quand même, parce qu'avant de parler de Marine Le Pen, peut-être parler de Macron, dans le fond, parce que Macron a constitué ce grand centre un peu liquéfié, ce grand centre de grand bain tiède, et face auquel Wauquiez est obligé aujourd'hui de se radicaliser s'il veut apparaître comme être dans sa différence.
Et donc,
s'il veut exister. Donc il est obligé, ne serait-ce que à cause de ce grand centre-là, d'aller vers cette radicalisation que Roland a décrite. Et donc, et je l'approuve, je trouve ça très bien. Parce qu'en fait, si vous, sur le schéma, si vous regardez sur le papier, la droite a un boulevard devant elle. Si on le replace devant ce que je vous ai décrit très rapidement de cette grande, de ce grand mouvement identitaire, etc., de retour au peuple, aux nations, etc., que ne comprend pas visiblement le macronisme, et qui est incarné, et qui pourrait être incarné dans la droite, et en tout cas dans Wauquiez, naturellement, Wauquiez aurait toutes les chances d'aller dans le sens de cette opinion-là. Mais il y a juste quelques problèmes, malgré tout, dans cette droite qui me fait penser qu'elle risque de louper le coche, et que d'abord, il me semble qu'avant de désigner un leader, Wauquiez très vraisemblablement, il aurait été peut-être bon, de la part des Républicains, de s'installer dans un corpus idéologique. Là, on ne sait pas de quoi on parle. On met un peu la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'avant de savoir quelles sont les grandes options de cette droite sur l'Europe, sur l'islam, l'immigration, enfin tous ces sujets, il aurait été bien de mettre un socle commun d'idées. Et afin qu'ensuite s'y adjoigne un représentant, mais là ils font l'inverse. Et ensuite, je trouve que les querelles d'ego dans lesquelles la droite se perd depuis des années s'exacerbent et en deviennent ridicules, même entre les trois qui se partagent.
Oui, qui ne voulaient pas faire le débat, etc.
Et puis surtout, il y a quand même dans cette droite de Wauquiez qui devrait s'affirmer dans sa radicalité, il y a plein d'interdits de pensée, plein de lignes rouges à ne pas franchir, plein de recul face à l'obstacle qui me fait craindre que face à ces problèmes qu'il faut traiter très, très, très résolument, les grands problèmes identitaires, je crains que qu'on ne lui fasse pas procès de ressembler de plus en plus au Front National, Wauquiez ne trouve encore des moyens de mettre de l'eau dans son vin et en fait d'édulcorer un message qui ne sera donc pas compris par les Français qui risquent dans ce cas-là de rester au Front National en effet. Et donc, tant qu'il y aura toute cette somme d'interdits, de querelles d'ego et de stratégies mal pensées, je crains que cette droite-là et du mal à s'affirmer face à Macron, qui, de mon point de vue, reste quand même dans un vide politique. Moi, je continue à le voir dans un vide politique, mais qui a cet avantage, en effet, de ne pas avoir d'adversaire, et donc qui se consolide par la faiblesse des autres.
Philippe Aizon, la même question.
Moi, en fait, je partage l'analyse de Roland selon laquelle, effectivement, Wauquiez n'avait pas d'autre choix que de se positionner de la manière dont il s'est positionné.
Bien à droite.
J'y ajouterais d'ailleurs une raison supplémentaire, c'est qu'il va être désigné par les militants, les Républicains, et qu'on le sait, la base des militants Les Républicains se reconnaît effectivement majoritairement dans une droite identitaire, conservatrice sur les questions de mœurs, etc. Donc il fait le programme de son électorat. Oui. Donc il fait ce qu'il faut pour être élu. Donc je partage l'analyse. Mais j'en tire une conclusion radicalement opposée. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement il n'avait pas d'autre choix que de se positionner comme ça. Et c'est un choix mortifère. C'est un choix mortel. Pourquoi mortel ? D'abord parce que, je parle des liens entre les Républicains et le FN. D'abord parce que les gens, quoi qu'ils arrivent, ils préféreront toujours l'original à la copie. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, les gens qui votent les Le Pen, ils pensent que les Le Pen, ils sont authentiques, sincères. C'est dans leur ADN, hein, le programme du Front National. Bon. Tandis qu'effectivement, ils voient Wauquiez comme un opportuniste, comme un coucou, comme un copycat, d'une certaine manière, hein, le type qui les imite, et qui n'en fait d'ailleurs qu'une tactique électorale. Donc je ne suis pas sûr que les gens du FN se précipiteront dans les bras de Wauquiez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est parce que c'est quand on regarde l'histoire politique récente, enfin pas que récente d'ailleurs, la droite ne gagne que quand son spectre électoral est large. C'est-à-dire quand effectivement elle englobe la droite dite radicale ou dure, je sais pas, et la droite centriste, la droite européenne, etc. Elle n'a jamais gagné avec l'un des deux sangs. Et même l'affaire de 2007 où Sarkozy siphonne effectivement le Front National, c'est un Sarkozy, je vous rappelle, qui cite Jaurès, qui fait appel à la gauche, etc. Donc il rassemble les deux bouts. Lui, c'est pas tout ça. Lui se concentre juste sur le FN. Oui, mais... Et par ailleurs, le défaut quand même de Wauquiez au-delà de ça, c'est que Wauquiez, Roland Lesquisset, c'est quand même un type très plastique, mais qui dit tout et son contraire depuis le début. Je voudrais juste quand même prendre quelques exemples. Donc le mec quand même se présente comme un gars de province, un petit gars de province.
Peut-être a-t-il une pensée complexe lui aussi.
Sans doute, sans doute. Mais juste, j'adore, quand même quelques contradictions ou paradoxes, disons ça comme ça. Donc, on vous aura pas échappé qu'il vous explique que la terre, elle ne ment pas, c'est le petit gars de province. Oublions pas quand même qu'il a été élevé, qu'il a grandi dans le 7e arrondissement à Paris avec une cuillère en argent dans la bouche, tout va bien. Je lui en fais pas le procès, mais en fait, c'est la réalité. De la même manière, il pourfend les élites, hein, qui sont vraiment un drame. Bon, il se trouve que par ailleurs, il est énarque et normalien. Bon, c'est pas très grave, mais par ailleurs, il parle du cancer de la Sistana. Quand il était secrétaire d'État à l'emploi, il a validé la convention d'assurance chômage qui a permis d'indemniser 100 000 chômeurs supplémentaires. Bon, pourquoi pas? Il est opposé au mariage pour tous avec une radicalité extraordinaire. Mais moi, je me souviens d'une époque où il draguait l'électorat gay en allant se faire filmer dans des bars du Marais. Donc, il a une sorte de grand écart qu'il a pratiqué visiblement. Quand il était ministre des Affaires européennes, il était très, très européen. Il n'y a pas plus européen que lui. Donc maintenant, on ne voit pas plus eurosceptique que lui, ce qui est quand même bon. Donc il y a un moment, il faudra juste qu'on comprenne exactement à quel endroit il se situe. Et je pense que c'est un des problèmes qu'il rencontre. C'est qu'au fond, on se dit que ce type n'a aucune colonne vertébrale et que le lendemain, il dira le contraire de ce qu'il a dit la veille et qu'il dira à celui qui est face à lui ce qu'il a envie d'entendre. Or, un électeur, ce n'est pas complètement idiot. Ça a besoin que les gens aient une forme de colonne vertébrale. Lui, à l'évidence, il en manque.
C'est pour ça que la droite aurait dû s'incarner d'abord dans un programme. Et je pense que le programme idéal de la droite aurait été, pour moi, tel que je l'arrive, une droite libérale, conservatrice et populaire. Elle est aujourd'hui libérale et conservatrice, parce que malgré tout, Wauquiez se définit comme étant libéral et conservateur, mais elle n'est pas populaire. Et d'ailleurs, ce qui avait fait perdre Fillon, outre ses affaires, c'était également qu'il n'avait pas ce lien avec le peuple, si je puis dire, enfin, avec cette classe moyenne,
Une droite conservatrice et libérale, ça fait 17% des voix, voilà, ça ne gagne pas une élection.
Oui. Absolument, donc il faut adjoindre cette France populaire qui pour l'instant se retrouve dans l'abstention ou dans les votes du Front National ou de Mélenchon, pardon. Et donc, s'il n'arrive pas à faire cette jonction de ces trois mouvements, je crains naturellement que la droite ne s'effrite encore davantage.
Et donc, on va voir.
Tout ça pour dire qu'il faut penser aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent depuis toujours à une union des droites, comme il y a eu une union des gauches en 1970, ouais. 11, où François Mitterrand n'a pas eu de scrupule à s'allier avec un parti communiste qui était le premier parti stalinien de France, qui avait du sang sur les mains. Et je voudrais aujourd'hui que les choses ayant été
ressorties. Vous pensez qu'il faut s'allier avec le FN?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'allier avec le FN, qu'il faut s'allier avec toutes ces forces qui aujourd'hui ne sont plus les forces qu'elles étaient auparavant, puisqu'on voit bien que le racisme, l'antisémitisme aujourd'hui est porté par l'extrême gauche et non plus par l'extrême droite.
19h49 sur RTL, la suite et la fin. On va reparler de Johnny quand même, parce que demain ça va être quand même quelque chose. Hein. Entre 7h et 15h en tout cas sur RTL, on va essayer de vous faire vivre ça au mieux. Mais à partir de la mi-journée sur les Champs-Élysées, ça va être très rock'n'roll. A tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Bernard Poirette.
Et avec Yvan Rioufol, Philippe Besson, Roland Guérol et Romain Reiner. Écoutez, c'est une citation de l'ex-président Sarkozy qui sortait du funérarium où il est allé rendre hommage à Hallyday qui m'a fait penser à cette question. Sarkozy a dit « Hallyday représentait l'idée du bonheur ». Et du coup, l'hommage populaire demain à Johnny, il va y avoir un monde fou. Hein. Il y a des bus qui arrivent de partout en France, etc. Est-ce que c'était parce que peut-être Johnny représentait l'idée du bonheur? Qu'en disent les internautes?
Bien, déjà, disons-le, l'hommage à Johnny Hallyday fait quasiment l'unanimité. Il reste quelques exceptions, comme ce lecteur de RTL.fr, qui trouve que tout ça, c'est du grand n'importe quoi, mais dans leur majorité, les internautes approuvent cet hommage populaire. Pour Bobby, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs bien choisi ses mots. Il salue une intervention très digne aux antipodes de la com macronienne. Pour Nathalie, Johnny comme Jean d'Ormesson, ça doit être une certaine idée de la France. Cathy, comme beaucoup d'autres, considère qu'il faisait partie de sa vie. Et pour Karine, Johnny a tant donné de sa personne pour son public que des funérailles nationales auraient été tout à fait normales. Il ajoute, Johnny et Jean d'Ormesson le méritaient.
Bon, on va pas gloser à l'infini, vous avez une minute chacun sur ce thème-là. Je vous en prie, Philippe Besson, pourquoi autour de cet homme-là, il se passe ce qui se passe aujourd'hui ?
Ah bah, alors, l'idée du bonheur, j'avoue que l'expression m'a surpris, et puis me suis dit, elle est effectivement assez bien choisie.
C'était les années heureuses de la France,
mais il y avait ça.
60-70.
Exactement, il y a les années heureuses. Après, il y a ce qui émane de Johnny Hallyday, c'est-à-dire le côté bon vivant, noceur, bringueur, buveur, fumeur, on le sait, bon, ça a fini par avoir raison de lui, mais en tout cas, ça représente ça. Il y a aussi le côté flambeur, hein, c'est quand même un homme qui a dépensé quand même plus que ce qu'il gagnait, et pourtant il gagnait beaucoup.
Et pas pour le donner aux impôts.
Oui, oui. Par ailleurs, il y a aussi l'idée d'un certain goût pour la liberté, le côté le biker qui traverse l'Ouest américain, donc ça plaît beaucoup. Il y a aussi le fait que Johnny Hallyday représente pour pas mal de gens une forme de réussite, c'est-à-dire l'enfant sans père, l'enfant de la balle qui devient une star, qui fréquente les puissants, qui se paye des belles villas au soleil. Il y a aussi le fait que ces chansons ont une fonction quasiment d'antidépresseur. Hein. Les gens qui viennent au concert, ils viennent pour passer un bon moment et ça les tire de la déprime persistante de l'époque, on va dire. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait que Johnny, c'était une valeur refuge. Hein, c'est comme l'or. C'est-à-dire, c'est le truc. Bon, ben voilà, on
se dit, tiens, bon, voilà, on sort les lingots.
Et puis, le type est devenu patriarche sur la fin. Donc, il y a un côté tête de chef de famille recomposé, etc. Donc, tout ça donne effectivement une image assez positive, on va dire. Et je pense que oui, l'idée du bonheur, c'est une formule assez bien trouvée. Alors, ça met évidemment de côté des choses qui étaient plus sombres. On sait qu'il y a eu la tentative de suicide, on sait qu'il y a eu les dettes, les démêlés avec le fisc, etc. Problème de santé à répétition. Mais surnage, effectivement, quelque chose qui est... C'était bien avec lui.
Yvan Rioufol, une petite minute.
Oui,
sur Hallyday.
Je suis un peu plus réservé sur Hallyday. J'ai beaucoup de respect, je comprends très bien cette émotion collective, etc. Mais j'aurais d'ailleurs aimé...
Comment vous l'expliquez ?
J'aurais d'ailleurs aimé qu'entre le prolo et l'aristo, entre d'Ormesson et Hallyday, on ait gardé un petit peu cet équilibre. Et en fait, je m'aperçois que la vague emporté d'Ormesson et cette France littéraire-là pour ne garder que cette France...
C'est vrai que d'Ormesson a eu droit à un hommage national
populaire.
Mais c'est pas d'Ormesson qui descendra les Champs-Élysées. C'est pas d'Ormesson qui descendra les Champs-Élysées.
Non,
et la dernière fois que ça a été, une des grandes dernières fois, c'était Victor Hugo en 1885, et donc aujourd'hui c'est Johnny Hallyday. Et donc on peut s'interroger de savoir pourquoi. Et moi, je suis un petit peu réservé sur cette manière-là de lui rendre hommage. Et j'y vois aussi quand même, alors peut-être est-ce que j'ai un esprit mal tourné, mais j'y vois quand même aussi cette manière qu'a les cons des politiques qui sont maintenant incapables de s'adresser au peuple, de s'adresser justement à cette France profonde-là, de lui rendre hommage à ce peuple-là à travers de celui qui représentait le plus cette France populaire. Et j'ai l'impression que le pouvoir se rachète un peu ses fautes en étalant la pompe républicaine pour essayer de faire oublier que lui-même s'est très éloigné de ces gens-là.
Roland Quérol.
Oui, moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe Besson. J'ajouterais peut-être que le bonheur, parce que tous les gens qui ont été fans de Johnny depuis des décennies, ils l'ont forcément connu, ils ont commencé à être fans alors que lui était plus jeune, et eux aussi. Et que donc c'est aussi sa jeunesse, son bonheur...
Le regret de la jeunesse, oui.
...qu'on fête en pleurant Johnny. De ce point de vue, il est un syndrome de l'ensemble de cette société, avec le nombre de fans qu'il avait, il renvoie tous ces gens à leur propre miroir. Et je trouve bien, de ce point de vue, que les fans de Johnny se soit laissé aller à déverser cette émotion. Je suis un peu plus réservé sur le pouvoir politique, moi aussi, comme Yvan. Je trouve que, et dans le cas de d'Ormesson, et dans le cas de Johnny, là, ils en ont quand même beaucoup fait, et on pouvait avoir un doute sur l'importance de l'émotion qu'ils ressentaient.
Merci beaucoup, messieurs Rioufol, Besson, Quérol, d'avoir refait le monde ce soir au micro d'RTL. Il est 19h56. La suite dans un instant, la pub, le flash, et puis le foot derrière.